Vous écoutez
RMC. Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là, l'After continue jusqu'à minuit en direct sur RMC, en direct sur After Foot TV, en direct sur la chaîne YouTube de l'After, on est partout jusqu'à minuit vers l'After Première Radio de France ce soir bien sûr. Kevin Diaz est là, salut Kevin.
Salut à tous.
Maxime Chano is back, salut Maxime.
Salut à tous.
Et ce soir on a la chance d'avoir avec nous le faucon du Mercato. L'homme qui sait tout, qui veut des infos, et ça tombe bien parce qu'il y en a plein.
Il vient déjà de me donner une info là.
C'est Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Salut Gilbert, salut à tous.
Ah oui, déjà, il t'a pas lancé un truc.
Ouais, j'étais en train de discuter avec Kelton et là, le faucon est arrivé. Il a bouffé la proie d'Elton et il est parti. Voilà. Donc il a donné l'info réelle et il est parti.
Ah, du coup, Elton est parti.
Elton est parti. Tout triste.
Illiman Ndiaye.
Illiman Ndiaye en l'occurrence.
Exactement.
90 bâtons, c'est vrai.
Non, c'est pas fait, justement. On en parlait parce qu'ils ont discuté dans Génération After. Il y a un intérêt de la part de Manchester City.
C'est important dans cette édition Génération After. Il y a 5 minutes, ils te disent Illiman Ndiaye pour 90 millions à City. Fabrice Yann, il dit non, c'est n'importe quoi.
C'était pas leurs infos. Et en plus, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt de City, mais c'est très loin d'être fait. C'est pas le premier choix. Et il y a une grosse, grosse bataille pour ce poste-là d'ailier.
Très bien. Bon. Liban Ndiaye qui
93 patates
qui brille en Angleterre depuis qu'il a quitté Marseille.
Après, ça a toujours été un bon joueur.
Ouais.
Oh, peut-être pas
Marseille, c'est dur.
Bon, il avait eu du mal à lancer son aventure, ouais. Mais une histoire de contexte.
Dans une période difficile, peut-être que ça ferait du bien à l'OM, tiens, s'il récupère un pourcentage.
Oui.
Alors, l'événement ce soir dans l'after, bien sûr, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions. On va détailler tout cela tout à l'heure avec les drôles de dames après 23h. Mais avant cela, puisque Fabrice est là, toute l'actu mercato, il y a plein de choses. La vedette du jour, c'est Barcola. On va vous dire ce qui se trame dans quelques instants. On va aussi parler de l'OM, des autres clubs français, toutes les infos club par club, bien sûr. Tout à l'heure à 22h45, Maxime veut donner son avis sur l'élimination de Lyon hier soir en Ligue des Champions. Après 23h, on dira également un mot de Monaco qui s'est qualifié tranquillement tout à l'heure pour la phase de poule de Conference League. Et puis la journée de Ligue 1 de week-end, demain choc Lille-PSG quand même, mine de rien. Deuxième journée,
gros
déjà
match.
Et conférence de presse de Luis Enrique aujourd'hui, on l'entendra tout à l'heure. Il a parlé notamment de Dembélé, c'est intéressant. Alors, Monaco, donc, a battu le club polonais de Zabrze tranquillement tout à l'heure. Les Monégas sont qualifiés pour la phase de poule. Monaco qui a gagné 4 buts à 1. On a également un match ce soir en Liga, le Barça qui joue face à Bilbao. C'est la mi-temps, il y a 1-0 pour le Barça. Et puis je vous signale également un petit match de Ligue 3. La future division de Kevin, bientôt, on lui souhaite. Bastia mène 1-0 sur la pelouse de Caen. Il reste quelques minutes à jouer.
Caen qui est un petit peu l'équipe de l'after en Ligue 3 quand même. Ou en tout cas de RMC, avec Mathieu Bonnemère, avec
Gaël Clichy,
Julien Maumont. Il y a quand même pas mal d'anciens d'RMC. Pas mal de grandes figures d'RMC.
Exactement. Des gens que l'on apprécie
sur
RMC et dans l'after. Et puis il y a du basket aussi ce soir avec un match France-Slovénie de qualif à la Coupe du Monde. Arnaud Valadon, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Bienvenue à Bercy avec évidemment Victor Wembanyama qui est sur le terrain. Les Bleus mènent 76-55 dans ce premier match du deuxième tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2027. Il reste 8 minutes à jouer. Wembanyama, 22 points en 17 minutes. Plus qu'efficace, Wemby devant 16 000 personnes qui n'ont dû évidemment que pour lui. 8 minutes encore à jouer, plus 21 pour la France, 76-55.
À tout à l'heure. Dossier Barcola, c'est le gros dossier du jour, donc allons-y directement. Fabrice, je précise en préambule que toutes les infos que tu donnes ce soir sont aussi sur rmcsport.fr. Abonnez-vous, vous aurez l'actu mercato en temps réel. On parle d'une somme largement au-dessus de 100 millions pour aller à Liverpool et on est globalement confiant pour ce qu'à se faire.
Oui, très confiant. Les clubs sont en train d'échanger encore parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a une partie de la direction de Liverpool, en fait, les vrais patrons qui sont aux États-Unis et les dirigeants du Paris Saint-Germain qui sont ici en France. Donc, c'est pour ça aussi que ça a avancé hier dans la nuit, en fait. Les négociations se font un petit peu en décalage. Ça va se poursuivre ce soir. La volonté des deux clubs, c'est de parvenir à un accord avant le début du week-end, en fait, avant le match Lille-Paris Saint-Germain. Ça, c'est une vraie volonté parce qu'après, vous savez comment ça se passe. Il va y avoir les matchs, même si ça n'empêche pas de négocier, mais ça ça freine forcément un petit peu les choses et ils aimeraient trouver donc un accord là dans les 24 heures. Bradley Barcola, on l'a déjà dit, est déjà d'accord avec Liverpool, contrat de 5 ans. Il manque l'accord final entre les deux clubs. On en parlait un petit peu avec Max, avec Kevin aussi pendant la Coupe du Monde sur ce transfert et cette enveloppe qui va être énorme pour le Paris Saint-Germain, pour un joueur recruté, 50 millions d'euros bonus compris. Là, ils vont en tirer un petit peu plus de 140 millions d'euros. On verra comment se répartissent les bonus, mais en tout cas, la somme avec les bonus, ce sera un peu plus de 140 millions d'euros.
Waouh. L'autre jour, Kevin était scotché par les 100 millions de Boidi.
Non, pas les 100 millions de Boidi.
C'est Diomandé, il me semble.
C'était pas sur 100 millions de Boidi. C'était déjà, on parlait de Savigno. 100 millions de Savigno.
Non, tu m'as parlé de Diomandé aussi.
Que tu trouvais, oui, non, mais du coup, on était parti sur Savigno, puis Barcola, puis Diomandé.
Tu nous as dit que les temps, c'était magnifique.
Magnifique. Magnifique, oui. Mais bon, Boidi, c'est 19 ans. C'est quand même très, très jeune. International marocain. Donc,
très peu prouvé aussi, hein, c'est vrai, par rapport à Barcola.
Ça reste cher aussi, hein, c'est clair.
Tu trouves ça cher, toi?
100 millions pour Boidi?
Non, je te parle pour Barcola.
Ah, pour Barcola, oui, on l'a dit tout l'été, 140, je trouvais ça cher, ouais. On avait dit 120, mais c'est pas 120 le prix de départ?
Le prix de départ.
Sans bonus?
Je crois que Liverpool est à 110.
Honnêtement, personne n'est capable de le dire ça. Okay, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas encore d'accord total. Ils sont encore en train de discuter le montage. Tu imagines bien que Liverpool, ils veulent payer moins au départ et se laisser une marge sur les bonus. Et Paris, eux, ils veulent récupérer le plus possible d'entrée. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas du tout d'accord total en réalité. Okay. Ils sont tous les deux OK sur le principe de vendre. Hier soir, c'était assez clair dans l'esprit de tout le monde. Maintenant, il faut vraiment réussir à répartir un petit peu tout ça.
Okay.
Bon, évidemment, à chaque fois. Depuis maintenant le début du mercato, il y a des prix qui tombent totalement fous. Et on dit, bon, les Anglais, ils ont leur propre marché, en fait, donc ils éclatent tout le monde. Hein, voilà. Et la France vend joueur après joueur à des sommes absolument records. Et en fait, la vérité, c'est qu'on n'est pas capable de... Je sais pas, c'est un peu comme le marché de l'art, quoi. On te dit, tiens, il y a une croûte, là, elle vaut 3 millions d'euros. Ah bon? Ça vaut 3 millions d'euros, ça. Bah ouais, parce que
c'est qui la croûte, du coup? C'est Enciso.
Enciso, il vaut 35 millions. Ouais. Franchement, c'est comme tu amènes un tableau tout bleu. Tu vois, on va dire, c'est de l'art contemporain, ça coûte
la fameuse banane, banane scotchée sur.
Mais moi, je trouve ça fascinant, en fait.
L'art, c'est très subjectif, finalement.
Mais les footballeurs aussi, c'est subjectif.
Bah, oui. Tu peux regarder les statistiques, tu peux comparer l'âge. Il y a beaucoup de facteurs qui sont.
Oui, mais quand même, il y a des gens qui vont te dire Enciso 35 millions, pourquoi pas, et Gilbert qui dit que c'est 7 millions maximum.
Du moment que ça a été indexé sur ce prix-là, tu pars du principe qu'Enciso coûte 35 bâtons quand il sort de Strasbourg, qui est un club moyen, excuse-moi. Non, et qui est paraguayen. Barcola, eh ben c'est un international français, il vient du Paris Saint-Germain, il a un CV.
Non, mais à partir du moment où il y a Diomandé à 140 millions, il n'y aura plus rien de surprenant, hein, ça c'est sûr.
Mais bon, c'était la même chose avec Pogba à l'ancienne, Martial, on va parvenir.
Pogba, c'est un des plus grands talents du football mondial.
C'était tant d'argent.
Pogba à 100 millions, c'est un des plus grands talents du football mondial, c'est quand même autre chose.
À l'époque, je me souviens qu'on critiquait les 100 millions.
Oui, non, mais d'accord, mais c'est quand même un des plus grands.
Pogba aujourd'hui, ce serait 200.
Non, mais il y a une inflation sur les joueurs moyens, ça c'est une réalité. Et là, je parle pas de Bradley Barcola, qui on peut expliquer son prix de différentes manières.
Quand on dit joueur moyen, c'est pas péjoratif. On dit que c'est pas le top 10 du Ballon d'Or.
Le top 10, c'est à 200 millions maintenant, c'est tout. À l'époque, Neymar était à ce prix-là, Mbappé était à ce prix-là, Barcola 140 millions en 2026, alors que Diomandé a été vendu 120. Voilà, ça me paraît logique. C'est triste à dire, en effet.
Morgan Rodgers 140, même si c'était entre les Anglais.
On parlait d'une bulle spéculative qui allait sauter après le Covid. La réalité, c'est que...
Manu Petit sort de ce corps. Non, mais alors, explique-nous ce qui fait la différence de prix entre un joueur aujourd'hui. Il a raison, Max, quand il dit l'âge, le club d'origine, la nationalité.
Il y a tout ça, franchement. Il y a déjà, pour moi, ce qui fait la différence sur les ailiers aujourd'hui, pourquoi un Morgan Rodgers c'est si cher, pourquoi un Bradley Barcola c'est si cher, pourquoi
il y a demandé,
et même un Ibrahim Baye, le Paris Saint-Germain demande 70 millions d'euros pour Ibrahim Baye, et on pourrait penser que c'est démesuré, et même qu'ils sont complètement demeurés de demander cette somme-là, mais en réalité, quand tu regardes un petit peu le marché, Ibrahim Baye, il partira peut-être pour 50 millions d'euros avec bonus compris, et va savoir si les bonus ce sera pas 10 ou 15. Aujourd'hui, la rareté des profils et le fait qu'il n'y ait pas énormément de joueurs aujourd'hui de côté disponibles sur le marché, bah forcément les prix sur ces profils-là, et ben ça s'envole.
Après, il y a
deux choses aussi qu'il faut prendre en compte, et Max l'a dit, la nationalité c'est importante. La réalité c'est que si Bradley Barcola, il est international sénégalais, c'est triste de le dire, ou ivoirien, ou peut-être que c'est un petit peu moins cher, même s'il y a une exception.
Il y a une exception, c'est
Yann Diomandé, mais c'est une exception, Yann Diomandé. Si tu regardes bien sur
le... Parce que par exemple, le joueur africain, du fait de la CAN par exemple, ou des déplacements internationaux.
Bien sûr, et puis les moins bankable, pendant très longtemps
avec les noms communautaires.
Il y a ça, tu as raison de le souligner, et puis pendant très longtemps aussi, le joueur africain, il est vu comme moins bankable. Donc des clubs comme le Real Madrid par exemple, pendant longtemps, entre deux profils, c'est vrai qu'ils préféraient souvent celui qui était européen pendant très très longtemps. Ça commence à changer, c'est une très très bonne chose, mais pendant longtemps, et jusqu'à récemment, c'était ça.
Énormément de joueurs africains au Real, c'est vrai. Il y en a beaucoup plus au Barça.
Il y a eu les Diarra.
Oui, mais il n'y a pas.
Non, non, il y en a eu.
Mais après, il y a le sport de la CAN aussi, je pense que ça embête les clubs de l'Afrique des Nations.
Et là, quels sont les postes aujourd'hui où il y a de la rareté? On parle des ailiers.
Il y a les latéraux aussi.
Ailiers. Centraux. Enfin, non, aujourd'hui.
Parce qu'aujourd'hui, Nuno Mendes.
Il y a de la rareté à tous les postes.
Non, mais les ailiers, simplement pour répondre à Gilbert. Ailiers, même les gardiens, on remarque que c'est de plus en plus cher. C'est des postes où il y a une inflation.
Maintenant, c'est les ailiers.
Non, les avant-centres, historiquement, ça a toujours été cher et ça le sera toujours. Ce sera toujours les plus chers. Ça, il n'y a pas à dire. Mais c'est vrai qu'ailiers et latéraux, aujourd'hui, on parle de, par exemple, un Malo Gusto à Chelsea. Vous savez combien il demande Chelsea pour le vendre? 75 millions en livres.
Ouais, c'est énorme.
Donc, voilà. Aujourd'hui, le prix de sur ces profils-là. Palestra, qu'ils ont ramené de Chelsea, ils l'ont payé plus de 50 millions d'euros. Presque 65 avec bonus.
Ne parlons pas de Chelsea.
Parlons de Chelsea parce que des fois, à Strasbourg, il faut récupérer quelques mecs qui tombent du camion.
Ils tombent du camion à 50 patates. Quoi. C'est pas...
Non, c'est prêté.
Mais regarde Liverpool, les ailiers qu'ils ont fait, les latéraux qu'ils ont fait, là, que ce soit Frimpong, même de l'autre côté, les latéraux gauche de Bournemouth, son nom m'échappe, c'était aussi très cher.
Voilà, attends, finissons sur Barcola, les gars.
Kerkez,
exactement.
Là, ça va se faire à Liverpool. C'est bien pour Barcola, c'est bien pour Liverpool, c'est bien pour Paris, vous dites
c'est,
quoi
c'est bien pour Paris, ça c'est certain. À ce prix-là, c'est certain.
Tu pourrais me dire que c'est pas bien pour Paris parce qu'ils perdent un bon joueur.
Bien sûr qu'ils perdent un bon joueur. Ils perdent un joueur qui a beaucoup joué, qui a été prépondérant en tant que souvent 12e homme, etc. Ou qui a aussi bien aidé à faire gagner la Ligue 1, par exemple. Mais aujourd'hui, 140 millions, même si c'est 120, même si c'est 110, je veux dire, il y a un moment, tu l'as acheté 50 il y a 3 ans, il t'a ramené 2 Ligues des Champions, et le mec, il part pour
ils
le.
Ils peuvent pas faire la fine bouche.
Plus du tout, mais c'est même pas bien pour Paris. C'est bravo Paris, c'est tapis rouge, c'est.
Il faut se souvenir de ce que les gens disaient quand il est arrivé. 50 millions d'euros, c'est trop cher, ils vont jamais avoir. Bien sûr, mais il faut aussi féliciter les gens qui ont eu la vision, mine de rien. Parce qu'aujourd'hui, ils font quasiment x3 et sur un joueur qu'ils ont fait progresser, ils ont réussi en fait leur pari. Et ça sera peut-être la même chose avec Joao Neves, avec Désiré Doué. Et pour moi, là, ils rentrent dans un nouveau cycle, on en parlera peut-être, mais où il y a un renouvellement d'effectifs, il y a des nouveaux paris, même si on les connaît, les Marnes à Cléouche et les Ferran Torres. Mais il faut réussir
c'est différent.
Il faut quand même réussir cette bascule parce que ce qui a fait la force du Paris Saint-Germain ces deux dernières années, et c'est pour ça qu'ils vendent leur super sub, c'est comme ça qu'ils les appellent aussi cher, c'est que la qualité du banc de touche, quand on voit Gonzalo Ramos, Kangin Lee et Bradley Barcola qui vont partir, même s'ils ont joué, ils n'ont pas eu tous le même temps de jeu, mais c'était quand même des joueurs qui ont été importants pour le Paris Saint-Germain.
Parce que tu as une étiquette Paris Saint-Germain et à partir du moment que tu es passé par ce club-là, ta valeur marchande elle augmente. Moi je trouve pas ça fou, Barcola.
Mais ils ont été performants quand même.
Mais bien sûr, tu es performant, ils viennent de gagner 2 Ligues des Champions d'affilée, que tu sois titulaire ou non, peu importe. À partir du moment où je te dis que tu as l'étiquette Paris Saint-Germain, tu peux pas vendre un joueur 20-25 millions.
Bah, c'est la grande millions pour un joueur qui n'était pas titulaire indiscutable dans l'équipe, c'est quand même rare.
Mais ça, c'est du jamais vu, ça.
Qui n'était pas titulaire indiscutable, mais c'est la même chose sur Morgan Rodgers. Ou est-ce que tu peux dire qu'il a seulement 2 saisons très haut niveau?
Il était titulaire dans son équipe.
C'est la star, international anglais.
Tu te rends pas compte.
Mais bien sûr,
t'as un international. 140 millions pour un joueur qui était 12e homme, même s'il a gagné avec les champions.
L'année dernière, sur les 6 premiers mois, il était titulaire. Il était pas 12e homme.
Il était titulaire bis, quand même. Il était remplaçant bis.
C'est la même chose en équipe de France. Aujourd'hui, t'as un joueur qui a le niveau, entre guillemets, d'être titulaire dans tous les clubs européens. Donc c'est logique de le vendre ce prix-là. Je suis d'accord avec toi que c'est complètement fou, mais c'est la réalité du football moderne actuellement, messieurs. Habituez-vous.
Non mais encore une fois, sortons de Bradley Barcola.
Ah mais non, on s'habitue, on est juste un peu surpris quoi.
Non mais sortons de Bradley Barcola. Revenons les pieds sur terre, sur ce qui s'est déjà.
Les pieds sur terre.
Les pieds sur les terres footballistiques. Bah tu regardes la saison des 3 derniers gros transferts de Liverpool en fait. Et puis voilà, tu vas voir. Et c'est pas Bradley Barcola. C'est pas Diomandé, c'est du Wirtz, c'est du Ekitike. Malheureusement, c'est une blessure. Ouais. Mais c'est surtout notre ami Isaac. Voilà, c'est des catastrophes pour l'instant. Ouais, donc sûr. En fait, alors, arrête de me dire.
C'est pas Ekitike quand même.
J'ai dit Ekitike qui s'est blessé. Mais
t'es en train de me faire dire ce que j'ai pas dit.
C'est différent.
Non, non, je suis en train de te dire. Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'est une bonne chose de la part de Liverpool de payer 140 bâtons pour Barcola? Non, sûrement que non. Et tu l'as dit, t'as les meilleurs exemples, et notamment avec Alexander Isaac. T'as l'impression que c'est son cousin qui arrive à Liverpool et la réalité. C'est quoi? C'est que quand tu as le prix du transfert comme ça sur ton dos, l'expérience nous a appris que c'est jamais très bon pour le joueur. Je suis d'accord avec toi. Maintenant que le Paris Saint-Germain vend un joueur qu'il a acheté 50
PSG,
millions,
il n'y a pas de problème pour le PSG. Millions,
bravo à lui. Que Barcola décide de partir du Paris Saint-Germain parce que justement, il veut absolument être titulaire, il veut avoir un peu
pas
plus de considération à Liverpool. Très bien pour lui. Maintenant que Liverpool achète ce joueur 140 millions d'euros, oui, c'est une erreur. C'est une erreur parce que tu l'as dit, dans leur passif, sur les 3 derniers transferts, ils ont fait n'importe quoi. Mais c'est aussi la réalité. Si tu veux un joueur de qualité, un joueur jeune, un joueur joueur qui est international français.
Pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème sur le fait que la qualité, ça se paye.
Et ensuite,
je te dis juste qu'aujourd'hui, de dire que c'est normal, moi, je n'arrive pas à dire ça. Même peu importe la qualité du joueur. Pour moi, ça reste anormal. C'est factuel. D'accord. C'est arrivé. Ça va encore arriver avant la fin du mercato. Mais c'est anormal. Pour moi, c'est anormal.
C'est fréquent, ça devient normal, non?
Ah bah, mais non, c'est la question, c'est de savoir.
Il y a plein de choses fréquentes.
Est-ce que ça va finir par
baisser? Je veux pas dire ça, mais si on va en parler peut-être juste après. Tu sais, les insultes dans les stades, c'est très fréquent. Pour moi, ça reste anormal. Donc en fait, il y a plein de choses dans le foot qui sont très fréquents et qui restent anormales. Voilà, c'est tout.
Dans un instant, on aura Malcolm pour finir sur le dossier Barcola. On parlera des autres dossiers du jour. On parlera de l'OM notamment, de ce qui va se passer dans les jours qui viennent et des records de transferts encore en France cette année. Bref, spécial Mercato avec Fabrice Hawkins. On profite de sa présence. Bien sûr, à tout de suite à l'After.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
Gilles Darbribois.
Il est 22h18, le Mercato est dans l'After avec Henri Hawkins, avec Maxime Chanou, avec Kevin Diaz. On est sur le dossier Barcola, avec Malcolm au 32-16. Salut Malcolm.
Salut, comment allez-vous?
Ça va et toi?
Ça va.
Tu vas regretter Barcola, toi qui supportes un parisien?
Je vais dire, c'est je supporte que d'abord, je suis pas un peu Barcola. Oui, il va me manquer la première semaine, mais après, c'est l'histoire, quoi.
La mémoire courte du football.
On va dire que je me console avec
toi. Excusez-moi, mais règle de base du supporter, ne jamais s'attacher à un joueur.
Surtout maintenant. Mais il a une cote de sympathie, quand même, Bradley Barcola.
C'est que le joueur, lui, ok, il est bien dans ton club et tout, il va faire des bisous à l'écusson, mais lui, il joue sa carrière.
Max, c'est un métier.
Si demain je peux partir ailleurs pour gagner le triple, t'y allais. Et puis le club où t'étais avant, t'embrasses un autre écusson. Et puis
c'est ce que disait Alessandro
Nesta. Mais je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. En quoi le mec qui embrasse un écusson parce qu'il est d'origine de la région parisienne, parce qu'il a beaucoup aimé le Paris Saint-Germain jeune, parce qu'il a joué au Paris Saint-Germain, parce qu'il a gagné des titres avec le PSG, parce que c'est son club, il peut pas un jour penser que comme c'était le 12e homme, si vous voulez, le 11e homme ennemi, ou
moi je reproche rien, moi.
Non, mais pourquoi il pourrait pas écusser pourquoi il pourrait pas embrasser l'écusson et un jour quitter le club?
Parce que en règle générale, quand t'embrasses l'écusson, c'est vraiment que t'es prêt à te battre jusqu'au bout. Et
il s'est battu jusqu'au bout.
C'est même pas ce que dit Gilbert. Il dit juste qu'il faut pas s'attacher aux joueurs parce que par définition, ils sont amenés à quitter ton club et que tu pourrais souffrir.
Par définition, les joueurs ils sont pas attachés à toi en vérité.
Mais pourquoi?
Mais enfin, Kevin,
mais ils sont pas attachés à toi. Mais non, je suis pas du tout naïf. Je connais très bien le monde du football. Mais moi, j'ai joué dans des clubs. J'ai apprécié tous les clubs et pourtant je suis parti au bout de 2 ans. Mais c'est pas très grave. À chaque fois que je regarde
le club, personne a dit que c'était grave. C'est juste un constat.
Mais non, mais
froid.
Et donc, si t'as envie, je me rappelle pas avoir embrassé l'écusson. Si t'as envie d'embrasser ton maillot, si t'as envie d'embrasser ton maillot, embrasse ton maillot. C'est pas parce que derrière tu pars pour 140 patates, tu ramènes 140 patates à ton club. C'est eux qui devraient embrasser.
Il y a beaucoup d'histoires où est-ce que les joueurs embrassent en effet l'écusson et deux mois plus tard ils vont se battre avec le club pour dire je veux absolument pas.
Je reprends l'exemple Guendouzi. Guendouzi, c'est un mec, il est parti de Marseille. Mais je suis sûr qu'il aime toujours Marseille.
Ah non, il adore l'OM.
Il y a beaucoup de Marseillais qu'il aime plus qu'avant, c'est bizarre.
S'il avait embrassé l'écusson à l'époque, ou Valbuena, à un moment, il a embrassé l'écusson de Marseille. Pourtant, après, il a été à Lyon. Mais c'est un gars qui aime toujours le Marseille.
Demande à Guendouzi si demain le PSG il arrive avec une grosse offre, s'il y va pas.
Malcolm, tu es d'accord avec moi?
Il est tellement fou qu'il est comme un
paillard. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, je vais dire un truc quand même qui est bien avec Barcola, c'est que on n'est pas terminé sur le même épisode que Mbappé. C'est-à-dire que 2 ans après la fin de contrat, il veut partir, on a fait en sorte qu'il parte, c'est très bien, on se quitte en bons amis, et voilà, quoi, genre, maintenant, je vais pas pleurer son départ, au contraire, je suis très heureux qu'il veuille être titulaire ailleurs, et justement, parce qu'il veut vraiment avoir sa place titulaire définitif. Et fin d'histoire, c'est pas.
Tu l'aurais gardé, toi?
Ça, simplement, sur ce que dit Malcolm, parce que c'est super intéressant, c'est quand même une masterclass dans la communication, dans la manière dont ce dossier a été géré. Parce que ça aurait pu partir, ça aurait pu exploser complètement il y a quelques mois quand on a commencé à entendre qu'effectivement, il n'allait pas prolonger, qu'il y avait déjà des contacts avec Liverpool. En réalité, ça aurait pu vraiment exploser. On regarde comment, par exemple, se passe le dossier Julian Alvarez à l'Atlético. Et au contraire, l'entourage du joueur, notamment les personnes qui gèrent son image autour de lui, et le Paris Saint-Germain ont travaillé pour que tout se passe de manière très douce. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, Bradley Barcola, il ressort par le haut. Et contrairement à ce qui s'était passé, par exemple, quand il est parti à Lyon, je pense qu'aujourd'hui, quand il va partir et qu'il va quitter le Paris Saint-Germain, il va garder quand même cette cote de sympathie au Paris Saint-Germain. Et ça, pour le coup, faut rendre hommage et au club et à l'entourage du joueur.
Parlons un peu stratégie de carrière. Max, Kevin, vous avez connu ça. Moi, j'ai toujours entendu, tu vas peut-être faire 3-4 gros contrats dans ta carrière. En gros. Quand t'es encore peut-être 4, c'est au-dessus de la moyenne.
Ouais, c'est beaucoup 4. Normalement, c'est 2. Hein.
Voilà. Et alors, donc, c'est en général, c'est quoi? C'est plutôt le deuxième ou le troisième contrat qui est le contrat un peu où t'es à ton prime financier, quoi, en quelque sorte.
Ça a évolué. Pour ce genre de joueur, tu l'as bien compris. Nous, à l'époque, c'était vers 26, 27, 28 ans. Ouais. Tu prenais le premier gros contrat et à 30 ans, tu prenais ton dernier gros contrat, entre guillemets. Donc, t'en avais deux. La Barcola et le football, en règle générale, a évolué, Gilbert. C'est-à-dire que maintenant, ils prennent des gros contrats très tôt. C'est des grands clubs où est-ce qu'ils prennent énormément d'argent.
Peut-être qu'ils joueront moins vieux aussi.
Aussi, sûrement. Et encore plus quand t'as un profil comme Barcola.
Ta fameuse théorie de à 30 ans, c'est foutu.
J'en suis convaincu. Encore plus quand justement, t'as des qualités comme Barcola, qui est quand même beaucoup misé sur la vitesse, et on l'a vu, hein. En règle générale, les joueurs qui ont ce genre de qualité, passer 30 ans, ça devient compliqué. Après, il y a une réalité.
Tu sais que j'adore quand Fabrice prend son téléphone pendant l'émission.
Bah ouais,
c'est pas qu'il en a rien à secouer de ce qu'on dit, hein. C'est que.
Ah, pas du tout.
Je pense qu'il a.
C'est que là, il écrit un agent.
Ouais.
Il a la fonction. Non,
non, mais tout ça pour te dire que est-ce que vraiment c'est une histoire financière pour Barcola? Je pense pas. C'est des mecs qui ont quand même pris assez d'argent pendant un certain temps, même si.
Je te confirme. Oui.
Bah c'est une histoire de statut quand même.
Voilà, c'est une histoire de statut et pas d'argent. Attention, c'est deux choses complètement différentes.
Je suis pas d'accord avec toi. Bah, moi, je pense que dans ce milieu-là et à ce niveau-là, je pense que les deux vont.
C'est l'argent qui fait le statut.
Il y a des joueurs qui arrivent et qui négocient, mais vous avez dû connaître ça aussi. À un moment donné, quand tu arrives dans un vestiaire, que tu sais que t'as quand même un certain statut, non,
statut
ça va se jouer
l'argent.
Là-dessus. Mais totalement.
L'argent et le statut sont ensemble.
C'est pour ça que je dis que ça va totalement ensemble.
Pour moi, c'est le statut. Moi, je pense que c'est d'abord le statut de titulaire
qui t'amène l'argent.
Et après, le statut de titulaire, il t'amène avec l'argent des titulaires.
Exactement. Évidemment, propose un poste de titulaire au Real Madrid à Barcola avec moins d'argent, je suis convaincu qu'il y va. Parce qu'aujourd'hui, le statut.
Propose un salaire plus élevé.
Il va y aller, mais au bout de deux semaines. Quand il va se rendre compte que certains qui ont un statut moins important gagnent plus, il sera pas content.
Je pense que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec Barcola à Liverpool, Paris Saint-Germain, pardon, Kevin, c'est parce qu'aujourd'hui c'est son statut qui ne lui plaît plus au Paris Saint-Germain
d'être sportif déjà.
Oui, mais le statut sportif, il va avec l'argent. Parce que peut-être qu'il ne le prolonge pas à la hauteur qu'il voudrait parce qu'il ne le considère pas comme un titulaire.
Pour le coup, l'argent, ça n'a pas du tout été un problème. Parce que le Paris Saint-Germain, il voulait vraiment le garder et faire des concessions financières.
Mais est-ce qu'il lui aurait donné un salaire de titulaire, sachant qu'il n'est pas titulaire forcément dans l'esprit de Luis Enrique?
Il aurait eu un salaire de titulaire du Paris Saint-Germain. Okay. S'il restait et il n'est pas le 11e.
Est-ce qu'avec ce changement de statut et ce changement financier, il va enfin changer de coupe de cheveux?
Ça, il faudrait lui demander.
Ça devient urgent quand même.
Non, c'est sa marque de fabrique.
Ah bon, d'accord. Je remercie Malcolm au 32-16. Question sur WhatsApp de Fabrice qui nous dit est-ce qu'on peut nous expliquer le fonctionnement des bonus? Parce qu'on parle toujours de bonus, mais concrètement, c'est quoi?
Les bonus, par exemple, sur une somme de 140 millions d'euros, ça va être, comme on disait tout à l'heure, ça va être 120 millions d'euros ou 130 millions d'euros fixes, peut-être un petit peu moins. Et ensuite, il va falloir passer certains paliers. Par exemple, ça peut être si Liverpool se qualifie en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain récupère 5 millions d'euros supplémentaires. Si Bradley Barcola marque 10 buts ou s'il joue la moitié des matchs de Liverpool, ils vont récupérer encore 5 millions supplémentaires. Comme ça, et c'est échelonné.
D'accord.
Et pour certains joueurs même, généralement pour les top joueurs et les offensifs, il y a des clauses sur le Ballon d'Or, sur même une nomination au Ballon d'Or, au Golden Boy, sur des choses comme ça. Le club récupère de l'argent en plus.
Beaucoup de clubs mettent des bonus qui sont facilement atteignables en fait.
L'idée c'est ça en fait, c'est qu'une partie peut être facilement atteignable et une autre partie plus difficilement. Et quand on a des saisons exceptionnelles comme l'ont fait par exemple Bradley Barcola quand il est arrivé à Paris, ou même Désiré Doué, un Désiré Doué ça a coûté quasiment 70 millions d'euros Paris Saint-Germain, alors qu'on annonçait 50 au départ.
Justement, le PSG, élargissons au-delà du cas Barcola. Le PSG, on en parlait pendant la pub, vend très bien. Alors, il y a quand même un truc bluffant. C'est le prix que le Milan AC a payé pour Gonzalo Ramos.
Et puis, il y a un autre truc bluffant, c'est qu'ils ont vendu leur bande-touche pour 300 patates. C'est ça qui est
extraordinaire. Alors qu'on disait que le bande-touche n'était pas dingue.
Mais c'est extraordinaire ce qu'ils ont
donc
fait.
Donc, 60 millions, Gonzalo Ramos.
Non, mais pour moi, c'est un des plus gros.
C'était le vrai prix de Gonzalo Ramos.
Ah, c'est pas 60?
Non, c'est bien plus. C'est 70 millions d'euros plus 16 de bonus.
86.
Mais là, le Milan AC, c'est des pigeons. C'est des pigeons. Envoyez-moi le jingle pigeon. Paul, jingle pigeon pour le Milan AC. En plus, ils ont acheté Moreira, combien?
50 millions d'euros.
Deux jingle pigeons. Non, mais le Milan AC.
Il y a un dénominateur commun.
Ils jouent même pas la Coupe d'Europe, les mecs.
Tu sais, Gilbert, il y a un dénominateur commun dans ces deux deals. C'est quand même l'agent qui a fait, qui était au milieu, qui est Jorge Mendes. Qui est connu quand même pour sa capacité de facilitateur, son entregent, sa capacité de conviction. C'est lui qui a ramené, par exemple, à Manuel Ugarte pour 60 millions d'euros et qu'il a revendu 60 millions d'euros alors qu'il marchait pas à Manchester United. Donc il a cette capacité-là. Et puis il y a Nasser El Khelaïfi qui s'est endurci aussi au fil des années sur les négociations. Et il faut le dire, il devient de plus en plus performant et même très très performant sur ce mercato.
C'est Nasser qui négocie ça.
C'est Nasser qui a négocié et c'est même lui, je te le dis, qui négocie actuellement pour Bradley Barcola. C'est personne d'autre au Paris Saint-Germain.
Jingle pigeon pour le Milan AC.
Pigeon. Oiseau à la grise robe. Tu es vraiment le plus agile. C'est un couple.
Jingle pigeon. C'est des pigeons le Milan AC.
Oui et non, parce que quand tu regardes, je suis d'accord avec toi, Gonzalo Ramos, quand tu regardes un petit peu son passif et ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain,
il avait déjà été acheté cher par le PSG.
Mais c'est ça, je suis en train de te dire, il a été acheté 65 millions.
Plus bonus.
Il y a 3 ans, plus bonus. Aujourd'hui, à 25 ans, tu le revends seulement 10 millions de plus alors qu'il vient de gagner de Ligue des Champions, alors que c'est un poste que tu l'as dit, ou est-ce que c'est très très compliqué de trouver un numéro 9 qui marque des buts.
Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Ça va être l'attaquant titulaire du Portugal.
Je te pose la question, comment le Milan AC arrive à débloquer autant de fonds? Mais enfin, aujourd'hui, 75 millions, alors je sais que ça ne va pas faire plaisir à Kevin, mais c'est une réalité. C'est le prix que tu payes pour un numéro 9 qui arrive du Paris Saint-Germain, qui est international portugais.
Bon. 75 millions.
Ah, la démonstration de Max me convainc.
Non, mais c'est ce qu'on disait, surtout Gilbert, c'est qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain vient de... Pour moi, ils ont battu tous les records de transfert.
Ils vendent pour combien en tout, là?
Ils vendent pour 300 millions, à peu près.
300, ça peut même aller beaucoup plus haut s'ils vendent Ibrahim Baye, ce qui est quand même l'idée du côté du Paris Saint-Germain. Ils pourraient toucher autour de 350 millions.
350 millions pour avoir vendu ton banc de touche. Mais franchement, c'est vrai que c'est
le banc de touche le plus cher du monde.
C'est extraordinaire.
Au niveau achat, t'as somme?
On doit être, je vais vous dire précisément, mais un peu plus de 200 millions d'euros, à peu près.
Donc il faut un mercato bénéficiaire. Et Luis Enrique est très content du mercato.
Mais tu te rends compte le jour où ils vont vendre leur titulaire? Mais ça va être complètement dingue le jour. Ils vont
déjà
vendre
entre Désiré Doué, Guevara, Vitinha, Olivès.
Non mais c'est
Qui a la plus grosse valeur au jeu dans l'effectif? C'est Guevara, Scilia, la plus grosse valeur.
Non, je pense que c'est Désiré Doué, moi.
Ah ouais.
Non, je crois que c'est Joao Neves.
Par rapport à Transfermarkt. Ouais. Non, mais c'est pas le prix du marché, c'est pas le prix réel.
Par rapport à son âge, par rapport à.
Ouais, mais Désiré Doué, il est très jeune, il joue devant, international français, c'est con à dire, et malheureusement, c'est peut-être des critères sportifs qui ne devraient pas rentrer en compte, mais il a la belle gueule, il a absolument tout ce que veulent les sponsors. Aujourd'hui, même au niveau marketing, ce que pèse un Désiré Doué, s'il continue à marcher comme ça, ça va être.
Il a toujours pas de sponsor chaussures?
Si, il a signé avec Nike, justement. Ça a pris du temps, mais il a un contrat béton.
Ça a signé du temps de fou.
Ah, lui aussi, il est entouré par des gens qui négocient bien. Il a signé au bon moment, justement, la Coupe du Monde.
Alors, on va parler
de
marketing dans quelques minutes et on va parler de l'OM dans quelques minutes. Mais en fait, il y a un autre truc là, il faut absolument qu'on ait ton avis. Je sais que c'est pas forcément facile pour toi de te positionner, parce que tu discutes avec les agents, tu veux te fâcher avec personne, que je peux tout à fait comprendre. Le but, c'est pas que tu te fâches avec quiconque. Mais, on expliquait il y a quelques jours.
Quand il a dit ça, tu sais que t'es mal.
Non.
Je sais que je vais me fâcher.
On expliquait il y a quelques jours que la ligne d'attaque du PSG, aujourd'hui, est détenue par le même agent.
Mais ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est factuel, ça.
Donc,
Moussa Sissoko.
Moussa Sissoko, qui est aujourd'hui peut-être l'agent numéro 1 ou 2 dans le paysage français, en tout cas. Il est l'agent de Dembélé. Il est l'agent de Kvaratskhelia depuis quelques temps, là. Ouais. Il est l'agent de Doué. Et il est l'agent de Barcola. Or, les joueurs qui sont arrivés, Torres, entre autres, c'est pas l'écurie Sissoko. Et donc, il y a quelques jours, on disait, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un peu de géopolitique aussi interne, parce qu'on n'aime pas trop dans un club quand un même agent a trop de monde, parce qu'en fait il y a une sorte de dépendance finalement à cet agent. Et est-ce que là il n'y a pas entre Luis Enrique, Sissoko, Campos un jeu qui se joue aussi d'influence?
Mais ça c'est le cas dans tous les clubs en fait. Je pensais, quand tu m'as parlé d'une question qui pouvait me gêner, je pensais que ça allait vraiment me mettre en difficulté, et là c'est très facile parce que ça se passe dans absolument tous les clubs. On parlait de Jorge Mendes il n'y a pas si longtemps, c'était lui qui tenait tout le monde au Paris Saint-Germain, avec Vitinha, avec Gonzalo Ramos, il avait pas mal de joueurs, Warren Zaïre-Emery, il avait Bradley Barcola aussi. Là, c'est vrai que Moussa Sissoko est l'agent qui monte, qui clairement fait partie des tout meilleurs agents au monde, hein, pas seulement en France. Et l'hégémonie qu'il a au Paris Saint-Germain, pour l'instant, elle dérange pas, parce qu'en fait, que ce soit Ousmane Dembélé qui l'a amené, que ce soit Désiré Doué,
c'est des joueurs qui fonctionnent bien.
C'est des joueurs qui sont très performants. Même Colomoigny, admettons, il y a eu Colomoigny, et ça a fait énormément de bruit parce que Moussa Sissoko, les relations qu'il a, l'ont permis peut-être de placer un Randall Colomoigny. Mais Randall Colomoigny, il arrive à sortir à un prix où, en fait, avec tous les prêts payants qu'ils ont fait ces dernières années et ce transfert définitif à la Juve, le Paris Saint-Germain va pas perdre d'argent, ils peuvent même en gagner. Donc, en fait, c'est pas un agent qui dérange.
Attends, c'est fini au basket. Juste le score final, Arnaud, France-Slovénie.
Plus 25, 92, 67 pour les Bleus de Wembanyama. Encore un match à suivre en Suède dimanche soir.
Très bien, merci, bonne soirée. Mais.
Après, simplement pour finir, oui, ça peut déranger ses concurrents et cette position d'avoir autant de joueurs dans un club aussi puissant que le Paris Saint-Germain, oui.
Permets-moi de renverser la question autrement. je suis Kolo Muani, mon agent est Moussa Sissoko. Et je me rends compte que je joue plus au PSG. Et je me rends compte qu'en fait, le mec qui prend ma place, c'est un autre gars de Moussa Sissoko. Mais moi, j'appelle mon agent, je dis, mais tu me l'as fait à l'envers ou c'est quoi l'histoire là? Bah, en fait, tu ramènes un autre gars à toi prendre ma place alors que tu es mon agent.
Il ramène un autre gars. Non, mais en fait, c'est pas lui qui l'impose, c'est le club.
Non, mais ça s'est pas passé comme ça, surtout. C'est là. Parce que si ça s'était passé exactement comme tu décris là, moi, je pense qu'à un moment donné, ça peut poser problème, effectivement. Mais là, il a Kvaratskhelia, il vient de le récupérer. Donc, c'est-à-dire qu'il l'avait pas à l'époque où il est venu et que Bradley Barcola était titulaire. Et je pense, en revanche, que c'est vrai que si Bradley Barcola était resté avec Kvaratskhelia en plus sur le même poste, ça aurait pu poser problème. Mais là, Bradley Barcola va s'en aller.
D'où est Barcola en concurrence?
C'est toujours un peu borderline.
Donc ils ont le même agent.
Après les grands agents.
Comment ils faisaient des dîners à trois
Non, mais les deux s'adorent. Non, mais Bradley Barcola et Désiré Doué, ils s'adorent. Après, ça va dépendre des personnalités des joueurs.
Ça dépend et surtout de la performance.
Et, non, mais surtout de la manière de gérer les choses. Parce que, encore une fois, les grands agents, ils ont des. On parlait de Jorge Mendes, par exemple, mais il avait toute la sélection portugaise. Lui, c'était encore pire. C'est-à-dire que dans la sélection, parfois, tu n'étais pas sélectionné et le joueur qui allait à ta place, c'était le joueur avec qui tu partageais l'agent. Donc les grands agents, oui, ils ont plusieurs joueurs de très haut niveau, même poste.
Ou alors des joueurs se disent, de toute façon, il faut que je sois avec ce mec-là parce que je sais qu'avec lui, je rebondirai positivement. Exactement. Et donc j'avale quelques coups là.
Je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, Moussa Sissoko, c'est vrai qu'on parle des joueurs qu'il a au Paris Saint-Germain, mais en équipe de France, il a un qui va peut-être sans doute arriver, Junior Kroupi. Il a Ryan Cherki également. C'est-à-dire que vous imaginez le nombre de joueurs qu'il a devant l'équipe de France, en plus de Désiré Doué, de Bradley Barcola et d'Ousmane Dembélé. Il a quasiment tout le monde. Donc oui, c'est des problèmes qui se posent, mais c'est des problèmes de riches pour des agents très puissants.
J'adore ce genre d'histoire. Allez, dans quelques instants, d'autres histoires avec Fabrice Hawkins qui est là, toujours à zéro pour le Barça, sachez-le, face à Bilbao après 65 minutes. Le mercato de l'OM au programme dans quelques instants.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h35, après 23h, le tirage au sort de la Ligue des Champions au programme, un mot de Monaco également, mais pour l'instant, Lyon également au programme, pour l'instant le Mercato, parce qu'il se passe pas mal de choses et on décrypte ça avec Fabrice Hawkins ce soir qui est là, avec Kevin Diaz, avec Maxime Chalot. Avant de parler de l'OM, le transfert de Barcola qui va donc arriver, va une nouvelle fois permettre à la France de dépasser le milliard de ventes cette saison. Je répète, parce que c'est vrai que ça donne le frisson. La France va dépasser le milliard de ventes cette saison.
Bah c'est la Ligue des Talents, hein. C'est là où il y a les phénomènes.
Précisons, c'était déjà le cas l'an dernier. C'était déjà le cas l'an dernier, avec plus d'un milliard de ventes. Alors, évidemment, on est dans un contexte où il n'y a pas de droit télé, donc il faut bien trouver de l'argent. Donc, en fait, on vend tout ce qu'on peut vendre, on vend.
C'est-à-dire que ceux qui ont l'argent, les Anglais, viennent chercher là où il y a les talents, mais pas d'argent. Donc en fait, mathématiquement,
ouais, les Anglais balancent quand même de l'oseille parce que, comme on le disait tout à l'heure, peut-être que des fois ils surpayent les gars.
Mais c'est aussi parce que de la concurrence.
C'est aussi parce que la Ligue 1 ne peut pas retenir ses talents, Gilbert. Si la Ligue 1 avait des droits télé costauds, j'imagine qu'on laisserait pas partir certains de nos talents.
Mais alors, donc, y a quand même un problème.
Profite justement de la faiblesse actuelle de la Ligue 1.
Faut même si t'es nul en maths, tu comprends ça. Tu vends pour un milliard. Même si je te divise ce milliard par 20 clubs, ça fait quand même de l'argent dans les caisses. Où va l'argent?
Ça fait Gobert.
Après, il faut voir aussi dans quel club va l'argent. C'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est un petit nombre qui concentre quand même le milliard.
Où va l'argent? Moi, j'ai l'impression que l'argent, il va quand même globalement aussi dans la poche des actionnaires, des fonds d'investissement qui détiennent les clubs. Et c'est pas forcément réinvesti aujourd'hui à la hauteur de ce que tu vends.
Puis Gilbert, qui vend aussi?
Bah oui, non, mais faut le dire.
Aujourd'hui, c'est un club comme Strasbourg qui a bien vendu, justement, à
besoin. Strasbourg, ils vendent 160 millions.
Ils vont pas racheter. Strasbourg, ils sont déficitaires depuis un moment,
quand même. C'est la même chose pour Monaco, c'est la même chose pour Lyon actuellement.
Il n'y a pas de droit télé.
Les clubs qui vendent actuellement leurs joueurs, c'est aussi des clubs qui.
Je te dis, c'est pas une question de droit télé.
Économiquement parlant, sont en difficulté.
Tu parles de Monaco, je te dis qu'il y a une partie. Et c'est pas une critique, c'est factuel. Ribolovlev, il se dit, moi j'ai mis tant depuis, je sais pas, 10 ans dans le club, à l'occasion, je récupère un peu.
Oui, mais c'est quoi le problème de ça?
Mais c'est pas un problème, c'est juste qu'il faut dire où va l'argent.
L'argent va chez les actionnaires qui ont investi pendant des années et qui aujourd'hui n'ont plus de droit télé.
Exemple, Robinho Vaz, je le rappelle souvent, hiver dernier, il est vendu combien? Je sais plus, Vaz, c'est assez étonnant comme prix d'ailleurs.
C'était un peu plus de bonus compris, parce que c'était un prêt avec obligation d'achat, on était autour de 25 millions.
Bon. À l'époque, Pedri Benatia se dit, tiens, parfait, on va récupérer un peu d'argent pour pouvoir réinvestir et tout. Et Franck Macourt dit, non, je garde. Ouais. J'ai investi.
Mais moi, ça ne me pose aucun problème, en fait. Bon. À partir du moment où tu donnes un budget, tu donnes un budget à un directeur sportif, à un président, le budget, il est de temps. Une fois que il y a un joueur qui surperforme, c'est pas parce qu'il y a de l'argent qui rentre que tu dois forcément le faire ressortir.
Non, je peux comprendre la frustration des supporters.
Mais non, mais il y a pas de frustration. Et la frustration du propriétaire qui a envoyé 600 patates depuis 6 ans.
On nous écoute à Monaco. On nous écoute à Monaco. On fait savoir que Ribolovlev n'a jamais pris un centime.
Ah bon?
N'a jamais récupéré.
Bah, voilà, un centime. Non, alors très bien. Ils ont vendu pour combien Monaco cette année?
Ah bah, je vais demander. Ne me saute pas dessus. Je vais demander.
Non, mais voilà. Où va la thune?
Et finalement, le dénominateur commun, c'est tous les investisseurs qui ont mis énormément d'argent, qui aujourd'hui, avec la perte des droits télé, ont envie de récupérer leur oseille. Ça fait du sens.
Ou envie de mettre.
C'est frustrant.
Non, mais attendez, il n'y a pas que.
Je le redis, même si Ribolovlev avait récupéré l'argent qu'il avait mis au départ, je ne trouve pas ça scandaleux.
Bien sûr. Mais il faut quand même, pour nos auditeurs, parce que souvent.
C'est pas les mécènes.
Ah, mais là, en ce moment, vous parlez beaucoup de finances, etc. Mais aujourd'hui, quand tu as un budget qui est mis en place par une direction, un fonds d'investissement, un propriétaire, qui vous voulez, et que. Après, il y a des rentrées d'argent. Mais il y a eu aussi moins. Il y a eu des rentrées d'argent pour des transferts. Mais il n'y a quasiment plus de rentrées d'argent sur les droits télé par rapport aux 5, 10 dernières années. Donc, ce n'est pas que compenser, c'est aussi qu'il faut les payer les salaires des mecs. Parce qu'il n'y a pas que qu'on a investi, est-ce qu'on n'a pas investi. Mais les salaires des mecs, il faut les payer. Et la sécurité dans les stades, il faut les payer. Et donc, il faut quand même garder des poires pour la soif. Et donc, il faut garder peut-être pour l'année prochaine. Parce que tu sais, peut-être que ton budget de cette année, il est bouclé. Mais est-ce que le budget de l'année prochaine, il est bouclé pour Monaco? Pour les autres.
De toute façon, la vente des joueurs, ça permet de créer le budget, en fait.
Bah oui, c'est ça.
Je l'entends, mais c'est vrai qu'en tant que supporter, tu aspires à prendre une partie de l'argent pour pouvoir être réinvesti dans les transferts rentrants.
Une nouvelle fois, qu'un actionnaire ou qu'un propriétaire récupère une partie de sa mise, ok. Mais des fois, il y a des choses concrètes qui, effectivement, parlent aux supporters.
Je prends l'exemple. Une partie de la mise.
Je prends l'exemple concret qui est venu nous expliquer ici Joseph Ougourlian, qui était là, à ta place, Kevin.
Oui, voilà.
Qui nous a dit. Je vends Kouchanov à l'époque 60 millions, si j'ai bonne mémoire.
Non, je pense que c'était quand même moins. Entre 40.
Et avec l'argent de Kouchanov, j'achète le stade.
Ouais.
Et Bollard, on est propriétaire de Bollard grâce à la vente de Kouchanov. Ça, c'est du concret.
Oui, mais il y en a quand même à Strasbourg, par exemple. Très bon exemple. Ils ont refait le stade, si je dis pas de bêtises.
C'est l'argent de la communauté. C'est l'argent public. C'est le contribuable.
Ils n'ont pas participé du tout. Ils n'ont pas participé du tout, Blouko.
Si, il y a une part du club.
Voilà.
Mais
donc,
c'est globalement la majorité de l'argent.
Et le centre d'entraînement.
Oui, tu as raison. Il y a eu investissement concret sur le centre d'entraînement ces derniers mois.
Mais donc, quand on dit Monaco, il coffre. Monaco vient de refaire un centre d'entraînement tout neuf. C'est un des plus beaux d'Europe. Eh ben, ça a coûté de l'argent à la direction. Eh ben, s'il y a de l'argent qui rentre sur un peu plus de transferts, des mecs en plus.
Fabius reçoit des messages de Monaco.
Des mecs en plus formés à Monaco, comme à Cliouche ou d'autres. Eh ben, si le club coffre cet argent ou le récupère alors qu'il a été investi, par exemple, pour les infrastructures, mais je suis désolé, c'est tout à fait normal.
On décrypte ce qui se passe. Là
on décrypte bien. On peut pas être mieux. Là.
C'est bien clair.
Très bien. Ça va, Fabrice?
À vous.
Il est en train d'écouter un podcast.
Il est en train des vocaux de Monaco, là.
Qu'est-ce qu'il raconte, Gilbert?
On prend les infos.
Tu te fais menacer ou pas?
Ça parle en quelle langue?
Anglais.
C'est en anglais.
Je voulais qu'on embraye sur l'OM. On va le faire dans quelques. On va d'abord faire une. Parce que l'OM, c'est un gros dossier. Et on va le faire avec Kevin, le 32-16. Juste avant. C'est aussi important, Fabrice. Est-ce que tu as des infos sur le mercato de Saint-Maur? Est-ce que ça bouge au Lusitanos?
À ma grande surprise, j'ai une petite info là. Ils essayent de hijack le transfert de Bradley Barcola. Ils essayent de rentrer dedans. Ils ont proposé un prêt payant d'un euro.
Franchement,
avec une option d'achat non obligatoire de 150 millions.
Si ça passe à 140 euros, ça peut le faire.
Bon, Marseille dans un instant. Et ça va être très intéressant, Marseille, parce que ça commence à se tendre un peu de partout à Marseille, parce qu'évidemment les jours passent. Le mercato, c'est jusqu'à mardi 20h. Marseille, on va vous expliquer ça dans le détail, je vous le dis là vite, doit vendre 4 joueurs pour pouvoir recruter. Donc là, on est peut-être dans une perspective où il y a zéro recrutement. Et Fabrice va nous expliquer le détail dans quelques instants. Il y en aura Kevin le 32-16.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h43, Maxime Chano est là, Kevin Diaz est là, Fabrice Hawkins également. Petit point sur les scores, messieurs, sachez que le Barça mène toujours 1-0 face à Bilbao. Je dis pas de bêtises si je dis que c'est Rafinha, oui, qui a marqué tout à l'heure. Il reste dans ce match un quart d'heure à jouer, puis en Ligue 3, Bastia a définitivement gagné à Caen 1-0. Alors, on y va sur l'OM. Les gars, Fabrice nous a momentanément quitté, hein, parce qu'il est au téléphone, donc il se passe toujours des choses avec Fabrice Hawkins. Quelle vie! Franchement, c'est incroyable. L'OM. Genesio, et là Fabrice, je parle évidemment sous ton contrôle, Genesio attend de pouvoir éventuellement recruter. Pourquoi ? Parce que il est inquiet parce que le club doit vendre, et tu nous dis que le club doit vendre 4 joueurs avant de pouvoir recruter.
Ouais, effectivement, c'est-à-dire que Marseille doit faire de la place dans sa masse salariale notamment,
ils doivent la
diviser par deux, exactement, plus que les transferts, évidemment les joueurs vont pas partir gratuitement, mais les joueurs doivent partir, mais surtout pour libérer de la masse salariale, ils doivent respecter leurs engagements avec la DNCG, et donc 4 gros salaires, ça peut être Naef Aguerd, Pierre-Emile Heuberg, ça peut être
Timber.
Voilà, Timber, tous ces joueurs là, Pachao,
Balerdi.
Voilà, exactement. Et en fait, s'il souhaite recruter Bruno Genesio, c'est qu'il sait très bien que ces joueurs-là sont amenés, en tout cas une partie d'entre eux sont amenés à partir, à quitter le navire. Et c'est vrai que ça se tend un petit peu, notamment sur le cas Pachao, parce que lui, il est aligné avec Grégory Lorenzi, le directeur sportif. Ils aimeraient vraiment garder Igor Pachao. Maintenant, les cartes sont dans les mains de Franck McCourt, et c'est lui qui va décider, in fine, s'il part ou non, sachant qu'il y a une offre de Sunderland qui propose un peu moins que ce qu'aimerait l'OM, c'est-à-dire un peu moins que 40 millions, même beaucoup moins, on est un peu plus de 30 millions.
À l'échelle des Anglais, il vaut plus que 40,
qui est le meilleur Marseillais d'ailleurs depuis le début.
Exactement, c'est pour ça qu'en fait, au niveau du sportif, eux ils disent il faut qu'il reste, et Franck McCourt, lui, il dit qu'il faut qu'il parte. Donc on va voir comment il va arbitrer, sachant qu'il a quand même la pression aussi, Franck McCourt, le propriétaire des supporters qui ne veulent pas voir Pachao partir. Donc c'est un dossier qui va être très intéressant à suivre et qui va nous donner des indications aussi sur ce que souhaite faire le propriétaire.
Mais moi, franchement, la situation de l'OM, elle est très inquiétante, parce que plus les jours passent et plus ça fait peur, en fait.
Ça approche, ouais.
Oui, parce qu'en plus, en fait, on sait qu'ils doivent vendre absolument certains joueurs pour libérer de la masse salariale. Et à côté de ça, ils ont fait une shortlist avec des joueurs, notamment Jean-Claire Todibo, Yann Bo. Il y a plusieurs joueurs comme ça dans la shortlist qui sont un petit peu en attente, qui aiment bien Marseille, qui voudraient peut-être rejoindre le projet, exactement, et qui sont en attente. Mais ils vont pas attendre indéfiniment. La fin du mercato, c'est mardi.
J'imagine pour un salaire réduit, alors.
Après, il y a des montages qui sont possibles en prêt, avec prise en charge du salaire, notamment pour Jean-Claire Todibo, par une partie par West Ham, en tout cas. Ils peuvent s'arranger là-dessus. Mais déjà, avant que ça arrive, avant qu'on puisse l'imaginer, il faut des départs.
Et si jamais l'OM n'est pas en mesure de pouvoir dégager ses joueurs, qu'est-ce qui se passerait ?
Il n'y aura pas d'arrivée.
D'accord. Donc ça, c'est un scénario catastrophe.
Il n'y aura pas d'arrivée, mais il y aura des sanctions. Il peut y avoir des sanctions ou pas ?
Après, le problème, c'est que...
Pachao, c'est ton meilleur joueur. Tu vas pas
il va jouer.
Non, des sanctions, je parle du certificat financier.
Ils sont engagés, oui, à vendre. Donc oui, s'ils ne vendent pas là, en décembre, ça va être compliqué.
Tiens, on a Kevin qui est là au 32-16, donc supporter de l'OM. Salut Kevin.
Bonsoir messieurs.
Salut Kevin. Salut. Ça t'inquiète tout ça, toi aussi ?
Très beau prénom.
Gilbert, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Chambéry. Ah. On avait débattu de Deserdi. C'était le bon vieux temps, j'ai envie de dire, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. On avait des problèmes de riches à cette époque-là. Aujourd'hui, on est obligé de tout vendre. Donc non, ça va pas. Ça va pas. J'ai vu le tweet de Fabrice tout à l'heure, j'étais dépité. Quand je vois qu'effectivement, il faut encore continuer à vendre avec autant de joueurs et que c'est les valeurs marchandes les plus importantes qui doivent partir. Ça peut pas aller, sachant qu'on doit jouer une Coupe d'Europe en milieu de semaine, plus essayer d'un championnat de jouer le haut du tableau. Ça, avec la vente d'autant de joueurs de qualité, on pourra jamais tenir le rythme. Voilà, donc comment tu veux que ça aille ?
En fait, le pire scénario, c'est lundi ou mardi, tu arrives à vendre un ou deux gros joueurs, et sauf que tu recrutes pas derrière, et tu te retrouves en fait mercredi matin,
ça serait compliqué,
affaibli, ouais. Avec une équipe qui va jouer à la 7e place. Quoi.
Gilbert, c'est surtout qu'on ne sait pas vendre les joueurs. C'est que ça fait des années qu'on ne sait pas vendre des joueurs. Quand je vois qu'on parle d'Iliman Ndiaye qui va partir peut-être à City, alors que nous, il ne mettait pas un pied devant l'autre. Et Ismaïl Assar, c'est pareil, à Liverpool, il y a des offres de malades. Des Robinho Vaz qui risquent de partir aussi en Angleterre pour le même prix qu'on compte vendre peut-être Pachao.
Dans la situation actuelle, c'est encore pire, parce que les clubs acheteurs, ils savent exactement dans quelle situation est l'Olympique de Marseille.
Oui,
c'est un peu comme un couple qui divorce quand ils vendent sa maison. Hein. Les acheteurs, ils savent exactement qu'ils peuvent en profiter. Donc c'est sûr que vous ne vendrez sûrement pas les joueurs à prix fort.
Mais quand on démarche un groupe, une agence pour vendre des joueurs qui se mettent en plein milieu des négociations, je pense que ça n'aide pas non plus. On l'a vu pour Holberg et peut-être Aguerd, mais c'est n'importe quoi. Alors moi, je comprendrai jamais comment McCourt, il a vu tout ce qui s'est passé en janvier. Et qu'avant ça, toutes ces années où c'est Longoria qui est à la tête du club, il ne voit pas qu'il y a des dépenses inutiles peut-être, ou trop de rotation dans l'effectif, des ventes de joueurs, tu en vois là, mais qui n'auront rien rapporté au final. On n'a jamais fait de plus-value importante, à part sur les deux joueurs du centre de formation cet hiver, par qui ? Par Benatia. Mis à part ça, après, il s'est passé quoi ? Rien du tout. On ne fait que vendre des joueurs au rabais, où on perd de l'argent. Il y a eu Rabiot aussi l'année dernière, et qui nous a rien coûté, qu'on a vendu 10-15 millions. Mmh. Voilà. Sinon, on ne sait pas vendre de joueurs depuis des années.
Alors, donc, sur rmcsport.fr, vous retrouvez un article de Fabrice. Il y a un exemple concret que tu donnes, Fabrice, c'est le gardien de Fribourg, qui intéressait Marseille, Noah Atubolu.
Exactement.
Et lui, du coup, il ne voulait pas attendre, en fait.
Bah ouais, Marseille était dessus, on sait qu'il recherche à ce poste-là, le joueur était plutôt partant, en tout cas il a écouté attentivement le discours de la direction sportive, sauf que c'est comme pour tous les autres, et il va y en avoir de plus en plus, hein, des joueurs qui sont là en salle d'attente.
Il est parti à Francfort.
Il est parti à Francfort, alors qu'il était plutôt chaud, et il va y en avoir de plus en plus de joueurs comme ça, qui au fil des jours vont se dire, moi je vais pas attendre mardi pour trouver un club au risque de me retrouver sans rien, je préfère choisir un autre club, même si j'aurais préféré jouer à Marseille, c'est le cas par exemple d'un Jean-Claire Todibo.
Bon, Kevin, un truc à rajouter ?
Non, il n'y a pas grand-chose à rajouter, Gilbert.
Hein. Après, j'imagine que l'instabilité sportive aussi n'aide pas à recruter les joueurs. Hein.
Non, mais je pense que c'est plus le fait qu'on ait besoin d'attendre de vendre des joueurs pour qu'on recrute d'autres. Parce que s'il n'y aurait pas ce problème-là, je pense qu'on aurait déjà peut-être des joueurs de qualité qui arrivent.
Oui, là, c'est sûr, final, c'est la Olympique de Marseille, c'est un club qui est attirant.
On est tellement dans l'attente qu'en fait, on joue une Coupe d'Europe. On joue une Coupe d'Europe, donc il y a quand même des joueurs qui veulent venir. Il y a quand même une ferveur au stade qui donne envie aux joueurs de venir jouer dans ce club. Maintenant, après, c'est sûr que je comprends les Todibo, je comprends tous les joueurs qui sont en attente peut-être de venir, d'attendre la dernière peut-être journée du mercato pour peut-être avoir la possibilité de venir. Et encore, c'est même pas sûr, parce qu'il faut négocier avec les clubs, il faut négocier les salaires. Donc, si ça rentre pas dans l'encadrement de la masse salariale, au final, on se retrouve avec qui ?
Après, normalement est déjà pré-négocié. Ils sont déjà d'accord. Normalement, t'es déjà d'accord avec les clubs, avec les joueurs. Et dès que les joueurs qui doivent te quitter te quittent enfin, eh bien, tu dois juste appuyer sur un bouton pour pouvoir faire les choses.
Merci Kevin. Bon, voilà ce qu'on peut dire ce soir sur l'OM. Et donc, il va falloir surveiller ce week-end et jusqu'à mardi ce qui va se passer à Marseille.
On le savait quand même. Ça fait un mois qu'on dit qu'on pourra juger la saison de l'OM que le 2 septembre, quand on connaîtra l'effectif final.
Exactement. Fabrice, Lille. On entend plein de noms. On entend Terrier. On entend Bakua. Qu'est-ce que tu peux nous dire ?
Bakua, c'est fait.
Est-ce que tu peux nous dire
Il recherche toujours un attaquant, idéalement pas trop cher. Tu parlais tout à l'heure de l'argent, ce qui est fait. Ils vont récupérer 100 millions d'euros d'Ayou Boadi.
Ouais,
mais bon, ils vont pas l'investir sur le mercato. Ils vont pas investir les 100 millions d'euros d'ici mardi. Ça, c'est une certitude. Il y a d'autres frais. Même dans la gestion de Lille, c'était programmé comme ça, la vente d'Ayou Boadi depuis un petit moment et pas forcément pour être réinvesti. Donc, ils cherchent un attaquant. Martin Terrier, qui a connu Olivier Létang, même brièvement à Rennes, est très apprécié. Il a été blessé la saison passée, c'est vrai, mais ça reste quand même un attaquant qui a des standards et qui intéresse beaucoup le LOSC. Après, ça va dépendre de ce que veut le Bayer Leverkusen. Aujourd'hui, ils n'ont pas 40 millions, 30 millions d'euros à mettre sur un avant-centre, le LOSC.
Et si Fernandez Pardo resterait
Ça va être un dossier très intéressant aussi
à
suivre. Il est mis de côté.
Il y a une actu aujourd'hui, c'est qu'il
Il est écarté. Il est écarté du groupe jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à la fin du mercato en tout cas. Lui, il veut absolument partir, il fait le forcing.
Pour la Newcastle.
Il veut partir en tout cas, déjà, à Newcastle ou ailleurs.
Justement des choix de Barcola, excuse-moi, je te coupe très rapidement. Mais alors, Fernandez Pardo, partir de Lille, qualifié en Ligue des Champions pour aller à Newcastle et potentiellement te retrouver dans une situation de rotation.
Il y a Atletico aussi. Lui veut
projet sportif, t'as bien compris qu'il allait faire un salaire x4.
Ah, ouais, ça, bon, c'est sûr. Ça, c'est sûr aussi. Mais ça va être intéressant de surveiller parce que c'est un jeune joueur qui est identifié avec beaucoup de clubs sur lui aussi. Donc, il faut voir si Lille lâche. Mais en tout cas, je fais confiance au président du LOSC. S'il part, ce sera quand même pour un prix, à mon avis, défiant toute concurrence. Et de toute façon, pour l'instant, c'est ce qui bloque parce que Lille veut plus de 60 millions d'euros. Pour l'instant, les offres sont entre 30, 40, 50 maximum avec bonus. Donc, il y a un gap entre ce que souhaite Olivier Létang et ce que sont prêts à donner des clubs pour l'instant.
Dans l'actu du jour, j'ai encore d'autres trucs. Hein. Vous nous dites ce qui vous semble important, les gars. Il y a des trucs, des transferts internationaux assez surprenants. Goretzka, Aston Villa, par exemple, celle-là, je ne l'avais pas vu venir, moi.
Ça va faire du bien.
Ouais, il recherchait au milieu du terrain un joueur d'expérience, un joueur qui a de la taille aussi. Aston Villa, c'est un petit moment qu'il recherche. Ils étaient intéressés par 2-3 Français d'ailleurs. Après, Leon Goretzka, c'est quand même un beau CV. Hein. Manchester United s'est intéressé aussi à lui. Il arrive libre, donc forcément, c'est très intéressant.
Il arrive libre.
Donc voilà, il a choisi Aston Villa. Unai Emery a su être très convaincant, en tout cas, parce qu'il a pas mal de clubs. Leon Goretzka.
Après, il est plutôt jeune, hein, 32 ans ou 33 ans.
Ouais, bien sûr, mais une ou deux saisons au plus haut niveau, je pense qu'il peut encore le faire.
Ouais, et puis Aston Villa compliqué avec la paire de Nana sur blessure, Yuri Tillman, je pense que ça va faire du bien. Goretzka un peu trop de muscu peut-être. Ouais, c'est le problème du footballeur, ouais, du trentenaire, tiens, toujours comme d'hab. T'as tendance à être beaucoup plus fin quand t'es jeune, puis bah tu te mets un peu à la muscu pour la plage, et puis finalement tu te rends compte que ça te dessert un peu.
C'est le vécu qui parle. Ou... Ouais, bah, regarde,
à Nice, moi, Aicho à Hull City, c'est fait.
Ça aussi.
Ouais, Mohamed Ali Chou à Hull City. Après, c'était une volonté de Nice. On savait qu'ils allaient vendre de toute façon. C'était aussi pour ça qu'ils avaient anticipé. On en avait beaucoup parlé sur RMC. La volonté, j'ai pas les chiffres exacts de Hull City. Ouais, mais c'est pas confirmé. Entre ce qui se dit et...
Non, c'est beaucoup, hein.
Ça, c'est très, très bien vendu.
Non, ce qui est sûr, c'est que c'est bien vendu. Mais entre ce que disent les agents et les deux clubs, pour l'instant, il y a une telle différence que je préfère pas m'avancer sur un chiffre. D'accord. Mais en tout cas, c'était attendu. Wai est là déjà. Donc, il n'y a pas de souci.
Je garde 2-3 transferts internationaux pour les drôles de l'âme tout à l'heure, notamment Marmouche. Je voulais dire, Angers va prendre un petit chèque pas mal pour le départ de Décomier. Tu es au courant ça, Wrexham?
Non.
Wrexham, 8,7 millions d'euros.
Tu en parlais hier.
Voilà. Et puis le Havre,
c'est
fait
mon club
de cœur.
Wrexham.
Ah, toi, tu as regardé Netflix, non?
Dès qu'ils voient une série, c'est Sunderland, son club de cœur. Tu vois.
C'est exceptionnel.
Non, directeur sportif,
ça va. T'as du temps pour toi.
Quand tu as une série sur la Thionville dans une
digitale. Voyage.
Ah ouais, ça
je peux dire que quand tu te fais un match amical à Thionville, quand tu fais un match de championnat à Bischheim, t'as 2-3 heures pour, ou 3-4 heures même pour regarder
Wrexham. Tu décryptes pas le match avec l'entraîneur, non?
Hein?
Tu décryptes pas le match avec l'entraîneur.
Si, mais tu sais, des fois, c'est bien aussi de se mettre dans sa bulle et de pouvoir.
J'apprends.
Et de pouvoir regarder quelque chose.
Et le Havre s'est fait prêter un défenseur de Palatinaikos, il s'appelle Ahmed Touba. Voilà, je vous le précise.
Mais il cherche un offensif d'ailleurs, le Havre aussi. Central. Il cherche un offensif et ils sont sur Ryan Fofana de Lens.
Ah ouais.
Donc ils avancent bien, c'est pas encore ficelé parce qu'il y a là aussi il y a la concurrence notamment de clubs allemands, mais ils aimeraient bien attirer Ryan Fofana en prêt avec option d'achat. Ouais.
Bon, faut surveiller de près Marseille. Et quels sont les autres clubs à surveiller de près d'ici à mardi?
Bah, il y a Marseille évidemment parce qu'il peut se passer énormément de choses, vraiment énormément de choses dans le sens des arrivées et surtout dans le sens des départs parce qu'il est possible qu'ils vendent mais pas suffisamment pour recruter. Il y a des clubs qu'on va regarder aussi évidemment. Le Paris Saint-Germain, le dernier dossier important quand Bradley Barcola se sera réglé, c'est Ibrahim Baye parce que là aussi ça va faire des dizaines de millions d'euros. Lens.
C'est vers le même club, non?
Pas sûr, parce que, encore une fois, si Paris reste campé sur ses positions et donne un prix autour de 60-70 millions d'euros, il partira pas à Liverpool, qui a commencé à avancer d'ailleurs sur Minté de Brighton. Donc voilà, il y a Lens encore qu'il faudra regarder, notamment ce qui se passe avec le départ de Ryan Fofana. Je sais que devant, il continue à chercher. On parlait de Yann Gbo tout à l'heure pour l'OM. Il y a un intérêt aussi de Lens pour Yann Gbo.
Très bonne
peut-être
saison.
Pour remplacer
deux saisons
qui Ryan Fofana,
bon.
Voilà.
Encore un joueur formé à Rennes d'ailleurs.
Ouais. Exactement, Kevin.
Lyon aussi, non?
Lyon aussi, qui recherche au milieu. De...
Ouais, parce que le. Est-ce que le Fofana.
Mais Lyon, ils n'ont pas d'oseille.
Alors, il y a deux choses.
En Ligue des Champions,
Lyon, ils n'ont pas d'oseille.
Ça les oblige justement à
vendre. Il y a deux choses. Déjà, il y a Malik Fofana, effectivement. Il faudra regarder avec précision et attention ce qui se passe. Il peut renforcer la S-ROM, qui d'ailleurs ne s'est pas beaucoup affaibli. Ils ont gardé Dybala. Pour l'instant, ils gardent aussi Manu Koné. Ils ont vraiment une très, très belle équipe. Donc, ça peut être un beau projet pour lui. On sait que si Lyon joue la Ligue des Champions, peut-être qu'il aurait été plus enclin à rester. Je pense que ça peut se diriger vers un départ. Il faudra regarder au milieu du terrain parce qu'ils veulent recruter. Il y a pas mal de joueurs qui ont été cités, notamment Djaoui Cissé. Je fais la passerelle avec Strasbourg qui sont aussi sur Djaoui Cissé, même plus agressifs que Lyon. Donc ça peut être une vraie piste pour les Strasbourgeois. Donc voilà, il y a des dossiers comme ça, surtout de jeunes talents. Je pense notamment à Kevin Danois aussi, d'Auxerre, qui est le capitaine maintenant.
Ouais, le père, ils sont morts.
Je pense qu'ils vont le garder parce qu'honnêtement, David Fontier, vu comme il a géré le dossier, au début c'était 15-20 millions d'euros en début de mercato quand il pensait que bon, les offres n'allaient pas arriver. Quand quand elles ont commencé à arriver, ça a augmenté. Le City est rentré dans la danse. Crystal Palace aussi, le prix il est monté, 20, puis finalement 25 millions d'euros. Et là, on est rendu à 35 millions d'euros. Et les dernières heures, c'est un des appels que je prenais tout à l'heure, on nous explique que même à 80 millions d'euros, maintenant, Kevin Danois n'est plus sur le marché.
Ah bon?
Donc,
Mito, demain à 80 millions d'euros à Auxerre.
Je peux te dire que l'Abbé Deschamps, il se fait peau neuve.
Évidemment. Mais c'est une manière de dire les 35 millions d'euros que j'ai donné. Si Crystal Palace arrive aujourd'hui avec ce chèque-là, peut-être que je vais demander un peu plus.
Surprenant qu'un club de Ligue 1, bon, après à ce prix-là, je peux le comprendre, mais ne soit pas positionné sur Kevin Danois un peu plus tôt. Pour Lyon, parce qu'on a parlé aussi de Malik Fofana, mais bon, il y a aussi la défense, hein, Maitland-Niles, Kluivert.
Ouais, il y a une volonté.
Je pense qu'à Lyon, ça risque de bouger.
Totalement, totalement. Maitland-Niles aussi, il pourrait ne pas rester.
En Ligue des Champions. Je pense qu'ils ont besoin de récupérer un peu.
Bon, voilà pour le mercato. Vous retrouvez tout ça sur rmcsport.fr. On reparlera mercato avec les droits de l'âme tout à l'heure. Et dans un
gros dossier Chelsea avec Enzo Fernandez, peut-être à Manchester City.
Ah,
on va peut-être parler de ça.
Et puis on parlera d'Alvarez aussi tout à l'heure.
Le milieu à 300 bars, 300 millions. City.
Dans un instant, retour sur l'élimination de Lyon hier soir dans l'after. On y revient et je vais vous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Bien sûr, sans oublier la journée de Ligue 1 et le tirage au sort de la Ligue des Champions. Bref, on a encore pas mal de choses à voir d'ici minuit. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.